Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Marc 9, versets 14 à 29. Quatre personnes marchent et descendent d'une montagne. Il s'agit de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda : Sur quoi discutez-vous avec eux ? Et un homme de la foule lui répondit : Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit : Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père : Combien y a-t-il de temps que cela arrive ? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit : Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant dit : Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit : Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit. En poussant des cris, avec une violente convulsion, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé : Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? Il leur dit : Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Sans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, nous sommes des sourds-muets face à l'annonce de la parole. Mais avec l'œuvre de l'Esprit, il dit : Esprit sourd-muet, sors de ce cœur et n'y entre plus. Nous comptons donc sur l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs pour saisir la parole de Dieu. Et nous voici à nouveau dans le journal de Pierre, disciple de Jésus, écrit par Marc, un ami proche de Pierre. Et les récits que nous lisons sont le rapport d'une personne qui les a vécus, un témoin oculaire. L'évangile, selon Marc, n'est pas une histoire inventée, mais c'est un témoignage de ce qui s'est réellement passé. La dernière fois, Pierre nous a amenés sur une montagne avec son maître Jésus-Christ qui a manifesté sa gloire et sa divinité. Peut-être que vous vous souvenez de ce moment glorieux et solennel où nous avions pu nous rendre compte que c'était autant pour les disciples que pour Jésus, ce temps si important de la transfiguration. Et Pierre n'a plus jamais été comme avant ce temps de transfiguration. Ça l'a marqué à vie. Et aujourd'hui, nous retrouvons Pierre, avec qui étaient Jacques et Jean, descendant de la montagne avec Jésus. Le contraste avec ce qui a été vécu sur la montagne et ce qui se vit dans la plaine est saisissant. Le contraste entre ce qui s'est vécu sur la montagne et ce qui se passe dans la plaine est saisissant. Cela fait vraiment penser à ce qui s'est passé lorsque Moïse est descendu de la montagne lorsque Dieu lui avait donné les 10 commandements. Sur la montagne, c'était la gloire de la présence de Dieu, de la communion. Dans la vallée, c'est les ténèbres. la présence de démons et la désorientation du peuple. Sur la montagne, le Père céleste parlait de son Fils avec plaisir. Dans la plaine, nous trouvons un Père qui parle de son Fils avec désespoir. Sur la montagne, les prophètes et sacrificateurs, Élie et Moïse, appellent à la foi. Dans la vallée, les scribes débordent d'incrédulité. Sur la montagne, les disciples ont été encouragés à placer leur foi en Jésus-Christ. Dans la vallée, les disciples qui sont restés ont oublié Jésus. Avez-vous déjà vécu des temps spirituels forts, comme étant sur une montagne, la montagne de la transfiguration, hein, et en descendant de cette montagne, vous avez l'impression de ne plus vous arrêter de descendre, pour arriver toujours plus bas dans le bourbier du péché? Ça peut être après avoir vécu une journée exceptionnelle, une journée de rencontre d'église, de baptême, un dimanche béni, en revenant d'un camp ou d'un séminaire. Qu'est-ce qui est alors important de saisir? Quel écueil devons-nous éviter? Quelle direction devons-nous emprunter? Eh bien, c'est ce que ce texte va nous aider à comprendre ce matin, et nous allons traiter cela en trois parties. Le premier sujet que nous allons voir, c'est que le mal fait toujours mal. Ne minimisons jamais l'œuvre du malin et du péché. Le mal fait toujours mal. Deuxièmement, nous verrons que l'incrédulité ne délivre jamais. L'incrédulité ne délivre jamais. Ne nous détournons pas de celui qui peut nous délivrer. Et troisièmement, la foi, c'est aucun pouvoir en nous. La foi, c'est aucun pouvoir en nous. Utilisons toujours le moyen donné par Dieu pour sauver et être délivré. Alors commençons par bien saisir que le mal est vraiment mauvais. C'est notre premier point. L'évangile écrit par Marc est le plus détaillé dans l'explication de ce qui se passe pour le pauvre enfant qui est malmené par un mauvais esprit. Le père explique ici le calvaire vécu. Le fils fait même une crise devant Jésus qui demande des renseignements au père. Et même lors de la guérison, la souffrance est extrême. Regardez avec moi dans la Bible, dans le chapitre 9 de Marc. Verset 17, où il est dit, un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. » Verset 20, « Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre, se roulait en écumant. » Jésus demanda au père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » Et verset 26, « Et il sortit en poussant des cris et avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. » Le mal est ici décrit de manière à ce que nous nous rendions compte que c'est vraiment mauvais. Ce n'est pas décrit comme étant une situation étonnante mais inoffensive d'un enfant qui a une crise d'épilepsie. La description est bien sobre et claire. L'enfant est muet, donc coupé de toute communication. Il est enfermé par le mal dans son mutisme qui le rend complètement vulnérable au mal. Ça, c'est l'œuvre du péché, hein, dans nos vies aussi, qui amène le mutisme, parle plus. Et on est vulnérable. Il est jeté par terre, agité de telle manière qu'il ne peut ni s'enfuir, ni éviter les dommages qui peuvent lui être infligés par ceux qui l'entourent, et même par lui-même. En fait, il est mis complètement à la merci du mal. En plus, il est parfois jeté dans le feu et dans l'eau. Et lorsque Jésus ordonne aux démons de le quitter, l'enfant pousse un cri comme pour lui prendre son souffle et lui fait une violente convulsion comme pour lui prendre toute son énergie. Il est complètement vidé par le mal. En fait, Satan et le péché agiront de la même manière. Ils nous rendent complètement vulnérables. Quelqu'un qui a péché, il a de la peine à chercher la sainteté. Il se dit, je suis pécheur, je ne vaux plus rien, etc. Il est vulnérable. Le péché rend vulnérable. Il nous met dans une situation de danger sans protection. Situation de danger sans protection. Il nous vide complètement de notre énergie. Il nous vide complètement de notre énergie et leur but final est notre mort. Le but final est notre mort et même la mort éternelle. Ça semble si évident dans cette histoire. C'est si évident que le mal est mauvais dans cette histoire. Et c'est si évident après ce temps tellement béni que les disciples ont vécu avec Jésus sur la montagne, à part, où ils ont vécu à un temps proche de la sainteté. Et c'est ainsi, lorsqu'ils sont face au mal, ça devient tellement gros que c'est mauvais. Mais ce n'est pas toujours aussi évident. Voyons-nous vraiment comment nos péchés sont mauvais dans nos vies? Comment le vol, par exemple, le vol du temps à son employeur en regardant constamment les messages de son smartphone. Voyons-nous ça comme un péché mauvais ou est-ce une petite crise d'épilepsie pas bien grave? Voyons-nous vraiment, par exemple, le commérage, qui est l'art de colporter les choses négatives sur les autres sous forme d'informations écumantes, hein, parfois même en cherchant à la sanctifier en disant c'est pour des sujets de prière. Voyons-nous le commérage comme un mal terrible ou une simple crise inoffensive? Vous savez ce que disait John Owen? Tuez le péché ou c'est lui qui vous tuera. Tuez le péché ou c'est lui qui vous tuera. Et comment est-ce que nous voulons tuer le péché si nous ne le voyons pas comme étant terrible, comme étant monstrueux? Lorsque le péché semble sympathique, on n'a pas envie de le tuer. Il est si sympa. De plus, le Père dit que l'enfant vit cela depuis son enfance. Depuis son enfance. Cela signifie que Satan et le péché n'attendent pas pour se mettre à l'œuvre dans la vie d'une personne. Ils n'attendent pas. Pourquoi alors attendrions-nous pour parler de l'Évangile? Pour annoncer la parole de Dieu? N'hésitons pas à enseigner les enfants dès leur tout jeune âge à se tourner vers Jésus-Christ, à vivre selon sa parole, à se réjouir de l'œuvre de délivrance de Jésus-Christ. Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï avec les tables de la loi et qu'il vit le veau d'or, il n'a pas cherché à comprendre que le peuple a fait ce veau en pensant à l'Éternel et en se réjouissant d'être sorti d'Égypte. Non, il a été radical. Il a détruit ce mal terrible qui amenait la malédiction sur le jugement et un jugement sur le peuple. Eh bien, de même, lorsque nous descendons de la montagne, où nous avons vécu un moment proche de Dieu, et qu'à ce moment-là, nous voyons nos péchés, parce que souvent, c'est là qu'on les voit, les péchés desquels nous devons nous repentir, n'hésitons pas. Ne cherchons pas à les excuser ou les cacher. Car le mal fait toujours mal. Satan et le péché ne vous veulent jamais de bien. Et ultimement, notre mort et notre souffrance éternelle. Si quelqu'un est saisi par l'Esprit de Dieu, que ce soit aujourd'hui ou en descendant d'une montagne une fois, eh bien qu'il comprenne qu'il doit se repentir, qu'il n'hésite pas. La repentance ne vous fera jamais de mal. On dit que c'est facile, il ne fera jamais de mal. Alors que le péché non pardonné vous fera toujours plus de mal. Alors que le péché non pardonné fera toujours plus de mal. Et justement, dans le témoignage de Pierre que nous voyons aujourd'hui dans ce texte, il est question de délivrance, ou plutôt de non-délivrance dans un premier temps. C'est ce que nous allons voir au deuxième point. L'incrédulité ne délivre jamais. C'est notre deuxième point. Et les champions de l'incrédulité sont là. Ils sont sur place. Et ils ont même pris la place de Jésus. Parce que maintenant, c'est eux qui discutent avec les disciples. Jésus a fait des centaines de miracles, tous plus extraordinaires les uns que les autres, chassant des démons, guérissant des malades, apaisant des tempêtes, nourrissant des foules avec très peu de nourriture, et même en ressuscitant des personnes. Devant tant de preuves de sa puissance, les scribes ne croient toujours pas. Et je n'ai pas de peine à croire, comme Calvin le croyait aussi, que les scribes sont tout heureux que les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. Ce qui implique pour eux une victoire face à ce Jésus qui se dit tout puissant, hein, et qui en fait, ses disciples sont en échec. L'incrédulité est la caractéristique principale des scribes qui ne veulent pas croire que Jésus est fils de Dieu. Qui par la suite ne veulent pas croire qu'il est sans péché, qu'il est mort à la place des pécheurs repentants. Et qui par la suite ne veulent pas croire, même face au témoignage des soldats gardant le tombeau qui vous viennent faire un rapport, ils veulent pas croire qu'il est ressuscité. Non, non. L'incrédulité est la base du péché dans le monde, le savez-vous? L'incrédulité est la base du péché dans le monde et il est accompagné par ses frères jumeaux, l'orgueil et l'égoïsme. Dans le jardin d'Éden, qui a réellement existé, Adam et Ève, qui sont des personnages historiques comme vous et moi, ont commis le premier péché par incrédulité. Ils n'ont pas pris au sérieux l'avertissement de Dieu qui avait dit que s'ils mangeaient du seul fruit défendu parmi la multitude des fruits non défendus, hein, du seul fruit défendu, ils mourraient. Ils ont été incrédules. Ils ne l'ont pas cru. Ils ont mangé et la mort est arrivée. Leur vie spirituelle est morte instantanément. Et la mort est entrée dans le monde, dans leur corps et dans toute la création qui a commencé à se dégénérer. Adam et Ève sont morts. Comme tous leurs descendants après eux et comme nous allons mourir aussi. L'incrédulité est à la base de ce drame universel. Et l'homme continue à vivre l'incrédulité. Ayant cela en tête, nous ne nous étonnerons plus des paroles très fortes de Jésus lorsqu'il dit au verset 19 du chapitre 9, ici dans Marc, Jésus leur répondit, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Alors à qui Jésus adresse-t-il ces paroles?
J'ai un peu transpiré, je dois vous dire, parce que...
À qui Jésus adresse-t-il ces paroles?
Les commentateurs sont pas unanimes à ce sujet. Donc je vous partage ma pensée ici. Pour ma part, je pense pour une interprétation semblable à celle de Calvin qui dit que Jésus parle aux scribes par la sévérité de ses paroles parce que la sévérité de ses paroles ne correspond pas à ce qu'il dit et ce qu'il dira encore à ses disciples lorsqu'il leur dit par exemple « Jean de peu de foi ». Ça, il le dit à ses disciples très clairement.
Mais si ces paroles ne sont pas directement adressées à ses disciples, elles doivent néanmoins les faire réfléchir et les avertir que leur incrédulité est une chose horrible et insupportable aux yeux de Jésus. Donc en fait, à qui cela est adressé ne devient plus si important que cela, puisque nous devons tous être avertis par cette parole. Le fait qu'ils n'ont pas pu chasser les démons, démontre une forme d'incrédulité, mais elle n'est pas identique à celle des pharisiens. Car les pharisiens ne croyaient pas en Jésus, alors que les pharisiens ne croyaient pas, ils ne voulaient pas croire en Jésus, alors que les disciples, en fait, lors de cette guérison, ont agi sans Jésus. Ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas en Jésus, ils ont agi sans Jésus. Les scribes en face de Jésus l'écartent. Les disciples, simplement, lorsque Jésus n'est pas là, l'oublient. C'est différent. Les scribes sont une race incrédule qui, face à l'évidence, ne veulent pas reconnaître Jésus-Christ. Les disciples sont des gens de peu de foi qui, face à l'adversité, oublient parfois Jésus. Les scribes sont une race incrédule qui, face à l'évidence, ne veulent pas reconnaître Jésus-Christ. Les disciples sont des gens de peu de foi qui, face à l'adversité, oublient parfois Jésus-Christ.
C'est clair, c'est important de ne pas oublier Jésus-Christ, mais ce n'est pas l'incrédulité des scribes et des pharisiens.
Dans cette histoire, nous avons encore l'exemple d'une incrédulité qui est bien gérée cette fois-ci. C'est le Père face à Jésus lorsqu'il dit qu'il lui demande d'agir en lui disant «
si tu peux. Je ne sais pas si vous avez marqué dans ce texte. Si tu peux. Jésus lui rebondit là-dessus. Il dit, si tu peux. Si tu peux. Si, le « si tu peux » du Père est une marque d'incrédulité. En fait, ça implique la possibilité que Jésus ne le pourrait pas. En fait, les scribes ont déjà introduit le venin de l'incrédulité dans le cœur de cet homme qui était venu vers Jésus pour la guérison. Le fait de venir démontrer sa foi. Mais l'échec des disciples et la discussion des scribes ont ébranlé cet homme. Jésus reprend cet homme et lui dit « si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Reviens à ta foi, mon ami. Place ta confiance en celui qui peut. » La question n'est pas si « je peux », mais comme le lépreux qui disait à Jésus « si tu le veux, rends-moi pur. Si tu le veux, rends-moi pur. » Vous savez, la foi cherche la volonté de Dieu, pas la possibilité de Dieu. La foi cherche la volonté de Dieu, pas la possibilité de Dieu. Et le Père répond, aussitôt le Père de l'enfant s'écria en verset 24, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » À cette phrase, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Mais voilà la bonne manière de traiter l'incrédulité, c'est de l'apporter à Jésus. Ça, c'est la bonne manière. « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je me repens de cette incrédulité. » Voilà comment bien gérer cette incrédulité. Quel chrétien n'a jamais dit cela? Nous avons la foi, nous voulons grandir dans cette foi, mais nous nous rendons compte qu'il y a encore de la marge pour grandir dans cette foi. Oui, Seigneur, augmente notre foi, parce que c'est justement par la foi que nous allons saisir l'œuvre de Jésus-Christ qui délivre. Si l'incrédulité ne délivre jamais, la foi en Jésus-Christ conduit toujours à la délivrance. Je vous parle d'absolu. J'aime généralement pas les absolus. Les absolus, ce n'est pas pour les humains. Mais on parle de choses divines ici. Et on peut dire que l'incrédulité ne délivrera jamais. La foi en Jésus-Christ conduit toujours à la délivrance. Et justement, la foi en Jésus-Christ n'est pas la foi en moi-même ou en quoi que ce soit d'autre. C'est ce que nous allons voir dans notre dernier point. La foi, c'est aucun pouvoir en nous. Nous n'avons aucune capacité personnelle à nous délivrer du mal ou à délivrer du mal des autres. Aucune. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons faire fausse route. Parce que nous allons chercher, en fait, le moyen d'être délivrés ailleurs que où il se trouve réellement. Nous n'avons aucune capacité personnelle à nous délivrer du mal et à délivrer du mal des autres. Regardez ce que le père de l'enfant terriblement souffrant dit à Jésus au verset 18. « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. » Ben, comme les disciples, nous sommes capables de voir le mal. Les disciples voyaient très bien le mal qu'il y avait devant eux. Ils voyaient très bien le besoin d'être délivrés. Mais comme les disciples, nous n'avons aucun pouvoir en nous-mêmes de délivrer qui que ce soit et quoi que ce soit. Parce que si un seul disciple avait le pouvoir de délivrer par lui-même, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. C'est important à comprendre ça. On est dans le cœur du salut ici. Si un seul disciple avait le pouvoir de délivrer par lui-même, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Il faut comprendre ici que le seul, l'unique, l'exclusif qui peut délivrer du mal, du pouvoir de Satan et du péché, c'est Jésus-Christ. C'est le seul, l'unique, l'exclusif qui peut délivrer du mal, du pouvoir de Satan et du péché. C'est Jésus-Christ, c'est uniquement Jésus-Christ, solus Christus, on avait déjà vu ça ensemble. Personne d'autre n'aura jamais le pouvoir de libérer du mal, personne d'autre. Si les disciples ont pu faire des miracles, ce n'était jamais par un pouvoir quelconque qui venait d'eux-mêmes, jamais. C'est toujours par le pouvoir de Jésus-Christ, toujours. Ne cherchez donc pas ailleurs, ni même en vous-même, le pouvoir de vous libérer de votre péché ou d'être délivré du mal. Seul Jésus-Christ peut le faire. Seul Jésus-Christ peut libérer du péché, peut nous délivrer du mal. C'est le message de l'Évangile, c'est le message de toute la Bible. Et Jésus a le pouvoir de libérer. Lisez avec moi le verset 25. Donc, on est toujours dans Marc 9. Hein. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit. Jésus ne prie pas ici. Jésus ne fait pas appel à une autre personne. Jésus ordonne lui-même à cet esprit muet et sourd de sortir et il sort. Jésus est Dieu et rien ni personne ne peut aller contre sa volonté. Lorsqu'il donne un ordre, même un esprit sourd va l'entendre. Vous savez, les Juifs pensaient qu'il n'était pas possible de parler à une personne sourde ou muette puisqu'elle ne pouvait pas entendre. Pas lui parler, les sourdes. Et Daniel Arnold dit dans son commentaire, « Pour cette raison, les gens pensaient à cette époque que seul le Messie pouvait opérer ce genre de miracle. » Une preuve de plus que Jésus est le Messie. Alors que feront les incrédules? Suivront-ils l'exemple des scribes ou du père de l'enfant délivré? Or, il y a encore la fin qui nous intéresse là. Les disciples, lorsqu'ils se retrouvent seuls avec Jésus, ont besoin de lui poser une question. Hein, lisons verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » Alors, en fait, Jésus ici ne donne aucune recette miracle. En fait, il rappelle l'essentiel. Il rappelle l'essentiel ici. Délivrer quelqu'un, même soi-même, du mal, n'est possible que par la foi en celui qui peut le faire. Ça, c'est un élément important. Délivrer quelqu'un, donc même soi-même, du mal, n'est possible que par la foi en celui qui peut le faire. Et la prière est la manifestation de cette foi et de cette dépendance. La prière est la manifestation de cette foi et de cette dépendance. Prier veut dire, c'est pas moi qui guéris. C'est celui à qui je vais prier qui va le faire. Ok? Ce que Jésus dit ici nous permet de comprendre que les disciples ont essayé de chasser le démon de cet enfant par leur propre force. Jésus étant parti sur la montagne, les disciples restant ou cherchant à agir selon leur propre initiative, et il n'était pas question de foi en Jésus-Christ. Mais de pouvoir démontrer, peut-être épater la galerie, ou même convaincre les scribes, peut-être. Les disciples avaient oublié de prier. What? Oublié de prier. Hein? Ben oui, ils avaient oublié de prier. Jésus leur rappelle leur dépendance. Il ne leur donne pas une manière magique pour chasser une sorte particulière de démon. Mais non. Celui-ci, comme tous les autres d'ailleurs, ne peuvent être chassés que par la puissance de Jésus. Et personne n'a cette puissance en lui-même. Il doit demander à Jésus d'agir par la prière. Okay? Les disciples avaient oublié de prier. Les disciples avaient oublié de prier. De manifester leur dépendance à Dieu, de consciemment laisser le contrôle à Dieu, de se soumettre à sa volonté et à rechercher sa gloire. Voilà ce que signifie la réponse de Jésus. Les disciples avaient oublié de prier, de manifester leur dépendance à Dieu, de consciemment laisser le contrôle à Dieu, de se soumettre à sa volonté et à rechercher sa gloire. Mais lorsque nous sommes face à des situations que nous ne contrôlons pas, comme à peu près toujours en fait, prions-nous. En allant au travail où nous ne savons pas comment la journée va se dérouler, prions-nous. Face à un stress particulier, oh, il y a toutes sortes de sujets de stress, un entretien d'engagement, un examen à passer, une lessive à faire sans force, un dossier qui impacte la vie d'une personne, enfin, prions-nous. En allant au lit, on ne sait pas ce qui va se passer. Prions-nous. Vous vous souvenez, les disciples avaient oublié de prier. Peut-être que nous devrions apprendre la même leçon que les disciples.
et saisir que sans la prière, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Sans la prière, il n'y a pas de salut. Sans la prière, il n'y a pas de progrès dans la foi. Sans la prière, il n'y a pas de rayonnement ni de vie de l'Église. La prière est essentielle. Pas parce que c'est la prière en elle-même qui est l'élément fondamental, mais parce que la prière nous rend complètement dépendants de Dieu et lui donne à lui le contrôle sur toute l'œuvre. Donc vivons-nous donc l'incrédulité ou la foi face au mal, puisque c'est le titre de cette prédication, l'incrédulité ou la foi face au mal. Lorsque nous descendons de la montagne et que le bourbier du péché se manifeste à nouveau, allons-nous nettoyer par la repentance ce que nos yeux renouvelés voient, ou retournons-nous dans notre bourbier comme les cochons le font, ou à notre vomi comme les chiens le font? Soyons radicaux, détournons-nous du mal et par la foi, prions afin de manifester notre dépendance envers le seul qui peut nous délivrer, afin d'être vraiment délivré et de le glorifier. Si l'incrédulité ne délivre jamais, la foi en Jésus-Christ conduit toujours à la délivrance. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te louons parce que tu nous donnes ta parole inspirée par ton esprit, qui nous rappelle des événements réels qui se sont passés. Nous pouvons quasiment les vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ qui était là présent. Nous nous rappelons la dernière fois ce temps glorieux de cette transfiguration qui manifestait la puissance, la gloire, qui donnait aussi la direction de l'œuvre de Christ qui allait à Jérusalem pour donner sa vie. Et Seigneur, ce contraste d'aujourd'hui nous marque. Et en fait, nous parle parce que souvent, nous nous retrouvons dans cette situation. Tout à coup, face de nouveau au monde, face au péché, face au mal. Donne-nous, Seigneur, de ne pas réagir avec incrédulité. Ô Seigneur, permets vraiment que nous puissions grandir dans la foi. Que nous puissions saisir que tu es ce Dieu qui délivre. Que nous puissions aussi être conscients que le mal est vraiment mauvais. Afin que nous nous en détournions et que nous venions à toi. Seigneur, tu es celui qui délivre même de la situation la plus terrible qui soit. Et cette situation que vivait cet enfant était absolument horrible. Mais tu l'as délivré. Tu as la puissance de le faire. Et il n'y a pas de situation trop horrible dans nos vies de laquelle tu ne peux pas nous délivrer. Et Seigneur, nous voulons te louer pour cela. Et te remercier déjà pour toutes les choses desquelles tu nous as délivrés. Et nous voulons continuer, Seigneur, à placer notre confiance en toi en te disant, nous croyons, viens au secours de notre incrédulité. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.